France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large sur Robert Altman, une Amérique fragmentée avec Frédéric Albert Lévy et Charlotte Garçon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Le 20 février dernier, Robert Altman aurait eu 100 ans. L'anniversaire n'a pas été célébré à sa juste mesure, mis à part la réédition cette semaine-là de Buffalo Bill et les Indiens. L'étoile du cinéaste américain brille-t-elle encore? Nous vous proposons, quoi qu'il en soit, de célébrer son cinéma en réécoutant ce Plan Large de juin 2019 qui, on l'espère, vous donnera envie de vous replonger dans son œuvre foisonnante et essentielle pour comprendre l'Amérique d'hier comme d'aujourd'hui, ses rituels sociaux et son imaginaire, sa façon de se donner en spectacle et de forger sa légende, bref, tout ce qui fait qu'une société individualiste et fragmentée fait tout de même corps. Véritable comédie humaine balzacienne, caustique mais plus tendre qu'on ne croit, du plus iconoclaste et anticonformiste des cinéastes apparus aux États-Unis à la fin des années 60, ce fameux Nouvel Hollywood dont Robert Altman était l'aîné de 20 ans et l'éternel rebelle, maverick, fort en gueule et ingérable par les studios. Revoir certains des grands films de ce grand peintre de la fragmentation, du dédoublement et de la schizophrénie amène à nuancer quelque peu l'image que s'en étaient faites certains de ses contemporains, celle d'un cinéaste surplombant, méchant voire cruel, misogyne et misanthrope, sarcastique et ricanant. N'est-il pas plutôt un moraliste, certes souvent satirique, mais particulièrement aigu, faisant preuve pour tout dire d'une compassion et d'un humanisme tout à fait renoirien. L'édition magnifique en DVD et Blu-ray de la version restaurée d'un de ses films les plus singuliers, Trois femmes, nous avait donné envie, à plan large, de nous replonger en territoire altmanien avec le critique Frédéric Albert Lévy, qui, sous l'acronyme de FAL, fit les belles heures du mythique magazine Starfix et signé sous le beau titre de Je et une autre, le livret de cette édition. En fin d'émission, un autre centenaire sera évoqué, Maurice Pialla, avec la chronique que Charlotte Garçon avait consacrée au pénétrant essai de Jérôme Momcilovitch, Maurice Pialla, la main, les yeux. Mais pour l'heure, tout commence avec une stridence tout altmanienne.
Play? Are you fond of music? I have a small record collection. Perhaps you would like to hear something. Would you come with me? Would you come with me? My mother had a large collection of records, but most of them are stored in the spare room. I keep my collection here. Perhaps there's one you'll like in this. Oh, there is one in particular that I think you might like. I took a course in music appreciation at one time, and now I try to spend half an hour to an hour every day listening to something I really like. Mm-hmm.
faire écouter une danse hongroise de Brahms à un jeune et mystérieux hippie qu'on a recueilli chez soi un jour de plus, c'est pas évident. C'est That Cold Day in the Park, un film qui est resté longtemps méconnu d'Altman. Il était inédit en France jusqu'à son édition en DVD par Wildside en 2013, alors qu'il avait été présenté hors compétition au Festival de Cannes en 1969. C'est le troisième long métrage de Robert Altman. Il avait fait juste avant un film, Countdown, qui anticipait de peu, en 1968, les premiers pas de l'homme sur la Lune. Mais c'est évidemment loin d'être la première réalisation de son auteur, Frédéric Albert Lévy. C'est quelqu'un qui vient de la télévision, comme William Friedkin, comme Sidney Lumet, comme John Frankenheimer, et ce qui explique qu'il a 20 ans de plus que les Spielberg, Lucas et Coppola, Scorsese, De Palma, etc. Frédéric Albert Lévy.
Oui, je voudrais juste dire une petite chose, c'est que quand on entend l'extrait qu'on vient d'entendre là, il est effectivement de That Cold Day in the Park, mais je pense que quelqu'un qui n'est pas prévenu pourrait parier que c'est Shelley Duvall dans Trois femmes.
Alors que c'est Sandy Denis.
Oui, alors que c'est Sandy Denis, mais l'intonation est la même, le rythme est le même, et on sent bien, même si on ne le voit pas ici, que c'est une femme qui parle dans le vide. Bon, parce qu'il y a bien quelqu'un à côté d'elle, mais le garçon, puisqu'il ne s'appelle que le garçon dans ce film, n'ouvre jamais la bouche. Enfin, sauf dans certaines périodes, mais qui ne correspondent pas. Bon. Vous disiez que c'était le troisième film d'Altman, mais je crois que les spécialistes sont d'accord pour dire que c'est le premier vrai film en bonne et due forme
d'Altman. C'est le premier film altmanien, on dira.
Oui, et c'est ce qui m'intéresse, moi, quand je le vois. Comme vous l'avez dit, c'est un film qu'on a découvert finalement après les autres, plutôt. C'est que c'est Altman avant Altman, mais c'est déjà tout Altman. Alors, c'est très facile de faire des prophéties après l'événement, mais pour donner deux ou trois exemples, pas plus, bon, il y a la voix dont on vient de parler, mais il y a aussi, par exemple, cette scène où Sandy Denis vient pour coucher avec le garçon et se rend compte, elle croit d'abord qu'il est en train de dormir, et elle se rend compte que c'est une poupée. Pour moi, c'est la première version du remake de Hier, Aujourd'hui et Demain dans Prêt-à-porter, où Mastroianni arrive. Bon, Sophia Loren, qui est encore très bien conservée, il faut quand même l'avouer, se met à refaire le même striptease que dans Hier, Aujourd'hui et Demain. L'ennui, c'est que quand les choses commencent à devenir stratégiques, Mastroianni est en train de dormir. Un autre exemple, si vous voulez, il y a le thème que j'appellerais vaguement incestueux. Bon, alors dans That Cold Day in the Park, il y a la visite de la sœur avec le partage plus ou moins forcé du bain. Mais ça ressemble déjà furieusement au film suivant d'Altman dans Brewster McCloud. Vous avez Sally Kellerman, la marraine, qui ne fait rien du tout, mais enfin qui se dénude quand même devant Bud Cort et qui le masse ou le caresse, je ne sais pas. Et puis il y a aussi l'adaptation cinématographique de Fool for Love, où vous avez des rapports incestueux entre un frère et une sœur.
On pourrait rajouter aussi qu'il y a un cabinet de gynécologie, comme dans Dr. T et les femmes, en 2000, et puis qu'il y a surtout, alors à l'image c'est Laszlo Kovacs, le chef opérateur Dizzy Rider, où déjà il y a des traits stylistiques très marquants d'Altman, l'utilisation du zoom, l'utilisation des focales longues qui aplatissent l'espace.
Oui, vous voulez me faire parler du zoom, car qui dit Altman dit zoom.
Et voilà.
On passe forcément de A à Z. Bon, alors est-ce que j'ai le droit de vous proposer mon interprétation semi-psychanalytique du zoom? Bon, je crois qu'il y a une chose qui explique... Alors, ce que je veux dire n'est pas du tout proustien, puisque, comme vous savez, Proust a hurlé qu'il ne fallait jamais... Je pense qu'il était de la plus totale mauvaise foi, mais peu importe, qu'il ne fallait jamais mettre en rapport l'homme et l'œuvre. Bon, moi, je pense qu'il y a un truc capital qui peut expliquer, non pas tout, mais une grande partie du style d'Altman. C'est le fait qu'il était malade du cœur, il avait une hypertrophie du cœur. Il a d'ailleurs fini, ce que j'ignorais, ça je l'ai appris très récemment, par avoir une transplantation totale du cœur. Je crois que c'était juste avant Prêt-à-porter, je crois, hein, je ne garantis pas la date. Bon. Mais en fait, il avait été diagnostiqué très tôt, dès l'âge de 30-35 ans. Bon, or, sa carrière au cinéma, comme vous l'avez dit, commence après une longue carrière
oui,
de
il a
télévision.
45 ans.
Je crois qu'il a déjà une bonne quarantaine d'années. Bon, et quel rapport avec le zoom? Eh bien, c'est que je pense que quelqu'un... Bon, nous sommes tous mortels, vous, moi, tout le monde, et nous savons que nous allons mourir un jour, mais je pense que quelqu'un à qui on dit, à l'âge de 30 ans, « Mon coco, tu as un cœur hypertrophié, il peut t'arriver un très gros pépin d'un jour à l'autre », n'a pas exactement la même psychologie que quelqu'un d'autre. Donc, Altman, c'est un type qui, me semble-t-il, dans une foule, se sentait forcément seul, c'est peut-être bien un bien grand mot, mais un peu différent des autres. Bon, peut-être que 50 personnes, dans une foule de 50 personnes, se sentent chacune différente des autres. Mais enfin, on parle d'Altman, là. Et donc, pourquoi le zoom ? Eh bien, c'est parce que le zoom, il y a deux mouvements, bon, avant ou arrière. Ce qui m'amuse, c'est que on part d'une foule gigantesque, Fjaltman, et la plupart du temps, on termine sur un détail ou sur une personne individuelle. Autrement dit, c'est un moyen pour lui de dire le bonhomme fait partie d'une foule, mais il a une particularité. Bon, et d'ailleurs, quand on parle du film choral chez Altman, je pense qu'il y a une ambiguïté et même une légère malhonnêteté de sa part. À propos de Gosford Park, histoire à la Agatha Christie avec je ne sais combien de personnes dans une maison.
Un peu sa règle du jeu aussi.
Oui. On court plus dans la règle du jeu que dans Gosford Park quand même, parce que Gosford Park c'est anglais, il faut garder une certaine tenue malgré tout. Il disait qu'il avait pris Maggie Smith. Pourquoi ? Parce que face à autant de personnes, le public risquait d'être désarçonné. Il fallait quand même qu'il y ait quelques acteurs qui soient immédiatement reconnaissables. Il fallait qu'il y ait des repères. Bon, alors, faudrait savoir si on fait une symphonie purement symphonique, il n'y a pas de soliste. Or, il veut faire des symphonies avec des solistes. Ça me paraît être non pas de la roublardise, parce que c'est une nécessité narrative, bien sûr, mais une légère contradiction chez Altman. Et donc, le zoom, c'est, dans le sens avant, j'isole un personnage au milieu d'une foule pour bien prouver, même si je ne dis rien, qu'il n'est pas comme les autres. Et quand, ce qui est plutôt le cas dans That Cold Day in the Park, c'est un zoom arrière, ça débouche sur une véritable dilution. J'ai envie de dire qu'il y a une obsession de la mort dans tous les films d'Altman, sans exception. Et encore une fois, c'est peut-être parce qu'il avait un cœur gros comme ça, parce que je pense que c'était un type généreux, mais physiologiquement, il avait un cœur trop gros comme ça.
Hi. What's going on? May I join you?
A little radio.
Oh,
yes. Frank. Oh, Frank.
Is this the Bickersons? I love them.
Oh, Frank. Yes.
Huh? The battling Bickersons. I love. Oh, no, I forgot.
Oh, my God.
You're shining that thing in my eyes.
Oh, I'm sorry.
Oh, he is such a sweet man.
Oh, Frank, my lips are hot. Oh, kiss my hot lips.
They are hot.
Lips? Hot lips?
We have got to share this with the rest of this family. Switch it over.
Oh, Frank. Strangle me. Frank.
What the hell is that?
Oh, yes.
Dr. Frank Burns is doing a bit of dilatation and curettage.
It sounds like the major, the new major, is having a dream.
It's just plugged in.
Frank! Wait a second!
What is it?
Turn the light off! No, that's all!
Shut up!
Get your clothes on!
Don't turn on me! Don't shut up!
Frank, wait!
Thank you.
On aura reconnu une scène très célèbre, celle de l'enregistrement et de la diffusion dans les haut-parleurs d'un camp militaire, des ébats d'une chef infirmière très austère et d'un major tout à fait dévot, Sally Kellerman et Robert Duvall. C'est évidemment MASH, le film qui rend Altman célèbre dans le monde entier, multi-récompensé, une palme d'or à Cannes en 1970. C'est le film qui le rend aussi très intéressant pour les studios à ce moment-là, puisque le film rapporte énormément d'argent. Je crois qu'il a coûté 3 millions de dollars, il en a rapporté plus de 80. Donc c'était une bonne affaire pour la Fox qui le produit, qui tourne ce film très antimilitariste en même temps que Patton dans les studios d'à côté, ce qui montre l'ouverture étrange de la Fox à ce moment-là. C'est pas un sujet d'Altman, Frédéric Albert Lévy, c'est un sujet qui a été refusé par tout le monde, c'est un sujet de producteur.
Je crois qu'il y avait 14 réalisateurs qui l'avaient refusé.
Et pas des moindres, hein, Zinman, Arthur Penn, David Lean, Stanley Kubrick, enfin tout le monde avait dit non à ce film, donc Altman a eu raison de le faire. Mais alors, on entend ici un travail du son qui est extraordinaire dans toute l'œuvre d'Altman. Là, ça commence dans de la gaudriole, de l'humour carabin, de comique troupier. Et puis, on part dans quelque chose qui devient presque cauchemardesque, et voire du son pur. Enfin, on entend cet écho qui revient. Et c'est le grand apport, sans doute, d'Altman au son du cinéma, c'est cette technique de l'overlapping. Alors, en français, c'est la superposition des dialogues, plusieurs pistes sonores, tout le monde parle en même temps. Je crois que c'était dans Brewster McLeod, Warren Beatty qui jouait le rôle principal, qui s'est beaucoup plaint de ça.
John
McCabe. Je confonds les Macs. Dans John McCabe, Warren Beatty dira. Le film qui a été un échec, c'est un échec parce que les gens comprenaient rien à la bande son avec cette technique imbécile. Frédéric Albert Lévy.
Alors, à propos de la bande-son, est-ce que je peux, non pas corriger, mais nuancer une chose que vous avez dite dans votre introduction, oui. Vous avez plusieurs fois prononcé le mot de fragmentation, à propos du sujet du cinéma d'Altman. Je suis mille fois d'accord avec vous, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que je lis dans, peut-être pas tous les films, mais dans un très grand nombre de films d'Altman, un effort quasiment tragique pour lutter contre cette fragmentation. Et quand on a la bande-son qu'on a là, que vous avez choisie, j'imagine, parce que dans le film aussi, même s'il y a des images, c'est une bande-son, puisqu'on ne voit que le début des ébats entre Hot Lips et Duval. En fait, c'est diffusé à travers le camp, à travers le haut-parleur. Altman a expliqué, et finalement, il justifiait un peu a posteriori les réticences des 14 qui avaient, disons, qu'il s'est retrouvé, après avoir tourné le film, enfin, ou presque vers la fin du film, avec tout un tas de matériaux, mais qu'il ne savait pas très bien comment mettre bout à bout, et il a eu cette idée géniale d'utiliser le haut-parleur comme une espèce de chœur antique faisant le lien. J'ajoute que dans MASH, il y a déjà une annonce de cette espèce de refus de ce que les Anglais appellent « suspension of disbelief », puisque c'est le même haut-parleur qui sert à la fin à énoncer le générique. Ce qui veut dire que...
Et qui diffusait même certains des mémos qu'il recevait de la Fox, du genre interdit de mettre des images pornographiques dans la salle de montage, en l'occurrence. Il reprenait tel.
Oui, mais
laquelle en les faisant lire par un très mauvais comédien qui faisait des hésitations, qui se trompait tout le temps, en plus.
Et dans le film même, le haut-parleur finit par jouer le rôle du haut-parleur. C'est ce jeu entre la réalité et la fiction, me paraît fort intéressant.
C'est même la distanciation qu'il y a. Il y a un mélange d'hyper-réalisme et de distanciation en permanence chez Altman.
Oui. Mais maintenant, je voudrais, si vous me le permettez...
Mais je vous en prie.
Vous adressez un petit reproche. On ne peut pas tout passer, mais vous passez, si j'ose dire, le premier chapitre de Hot Lips. Or, je suis désolé, je dois avouer publiquement ici que Hot Lips n'est pas loin d'être mon personnage favori dans MASH. Pourquoi ? Parce que c'est une crétine au début, mais qui devient beaucoup plus intelligente, beaucoup plus coopérative à la fin. Et à la fin, elle arbore un t-shirt MASH. Et si vous voulez, là, on entend, comme vous le dites fort justement, du son. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la dernière séquence où on aperçoit Sally Kellerman dans MASH. Elle est totalement silencieuse. Non pas la séquence entière, mais Sally Kellerman, pourquoi ? Parce que, entre-temps, ce que vous n'avez pas dit, pudiquement, j'imagine, c'est qu'elle ne s'intéresse plus au bigot. Elle est devenue la maîtresse, ça va très vite, mais elle est devenue la maîtresse du troisième larron, c'est-à-dire Tom Skerritt, Duke. Et à la fin, Donald Sutherland arrive pour annoncer la bonne nouvelle pendant que Duke est en train d'opérer et pour lui dire « Ah ben, ça y est, on a nos feuilles de retour, on peut repartir ». Et là, ce qui est assez bizarre chez Altman, au lieu qu'on se mette énormément à parler, il y a un silence. Et je débloque peut-être, mais cette séquence, pour moi, je ne peux pas la voir sans voir les yeux sans visage de Franju. Bon, et il y a une scène extraordinaire qui dure simplement quelques secondes, un échange de regards entre Brasseur et Alida Valli, et je retrouve exactement ça là. Pourquoi cet échange de regards dans MASH, que je trouve franchement bouleversant? C'est qu'on lui annonce qu'il va pouvoir, on annonce à Duke qu'il va pouvoir rentrer chez lui. Il devrait être content. Il est content. Mais on voit un regard d'angoisse chez Sally Kellerman, puisqu'elle est devenue sa maîtresse. Et oublions les histoires d'adultère, c'est pas ça. Mais ce qui m'amuse là-dedans, c'est que chez Altman, ça ne finit jamais. Ou si ça finit, ça finit toujours de manière bancale. C'est-à-dire, il est content d'entrer chez lui, mais en même temps, se sont établis, peut-être malgré lui, malgré elle, mais des liens entre eux qui fait que leur complicité va bien au-delà de leur simple relation professionnelle. Et je crois que c'est ça, c'est ça qui m'intéresse chez Altman, c'est que même quand ça marche bien, ça ne marche jamais très bien. Il y a toujours une poussière dans la machine, y compris à la dernière seconde. The sound of her hello, soft and tenderly. The way she lights my morning with a smile. And when she says I need you, oh I really need you. Makes my life so worthwhile. Cause it comes from the heart of a gentle woman. It comes from the soul of an angel from above. And I'll stay in the heart
of a gentle... Gould. It's Elliot Gould.
Well, let me meet the movie star.
Lady Pearl.
Lady Pearl.
Haven Hamilton.
Well, how do you do, Mr. Gould? So nice to meet you, and welcome to Nashville and to my lovely home.
Elliot!
What brings you here?
Elliot Gould!
Oh,
hello.
Well, I'm just,
How are you? Oh, you look marvellous. Oprah from the BBC.
Guest.
Do you remember the Cannes Film Festival?
Twice,
well, no, of course you wouldn't remember how silly of me.
No, she's
well,
not.
What are you doing? What am I doing in Nashville? It's so...
Excuse me, I'm sorry.
I'm doing this documentary on this
dreadful
place.
Excuse me, but you see, Mr. Gould does not give interviews. No, I don't know who you are or what you're doing here, but I will not tolerate rudeness in the presence of a star. Two stars. Would you just take a deal with? Thank you very much. So nice. Goodbye.
It's okay. It's going to be all right. No, listen, no.
Who are you?
Well, that's the price of success, I guess.
It certainly is.
Go get a Goo Goo, friends, and settle back for 30 of the goodest minutes in radio, the Goo Goo Grand Ole Opry. It's sent your way by the makers of Goo Goo, the goodest candy bar in the world, and King Leo Pure Stick Candy, the candy that roars with flavor. Now, a big welcome, if you please, for the Goo Goo Man of the Hour, Tommy Brown.
Vous écoutez France Culture, Plan Large, sur Robert Altman avec Frédéric Albert Lévy et Charlotte Garçon. On l'a entendu ici dans ce bel exemple d'overlapping, de superposition, de dialogue. On est bien à Nashville, dans le Nashville de Robert Altman. On est en 1974. On a entendu Elliot Gould dans son propre rôle. Il vient de faire le privé aussi après MASH. Et puis Geraldine Chaplin en sorte de double un peu fou du metteur en scène. C'est une documentariste de la BBC qui essaye de faire un reportage sur la scène country de Nashville. Ce qui intéresse sans doute Altman à Nashville, c'est moins la musique country elle-même que cette mise en scène de l'Amérique par elle-même. On entend ce chanteur ici, c'est Tommy Brown, joué par Timothy Brown, chanteur noir, mais en costume de cow-boy. Et c'est toute une mise en scène de l'Amérique par elle-même, Frédéric Albert Lévy.
Oui, alors ce que je voudrais dire, enfin je vais redire ce que vous dites à l'instant, c'est qu'il me semble qu'il y a un malentendu à propos d'Altman dans chez pas mal de critiques.
Il y en a beaucoup de malentendus.
Oui, sans doute. Mais chez pas mal de critiques français, ils s'imaginent par exemple qu'un type comme Michael Moore est anti-américain. Mais pas du tout. Son anti-américanisme, vision française, n'est en fait que le gage de son américanisme. Alors Altman, il est venu par exemple vivre en France pendant 2 ou 3 ans. Il vivait dans le quartier du Marais, d'ailleurs, là où il a tourné en partie le Beyond Therapy. Mais ce qui est amusant, c'est que quand il est en France, qu'il a ses bureaux en France, il produit quoi ? Il tourne quoi ? Il tourne Full for Love. Autrement dit, il retourne aux États-Unis alors qu'il pourrait, après tout, pourquoi pas, étant donné la réputation qu'il avait, il aurait pu tourner en France. Donc, Nashville, avec sa musique country, que personnellement je n'aime pas beaucoup, mais là ça n'a aucune importance, mais montre bien que, quelle que soit la masse de critiques qu'Altman a pu adresser au système américain, tout ce qu'on voudra, c'est un Américain dans l'âme et qui reste Américain. Alors, cette opposition, moi je la trouve ailleurs, du point de vue artistique, si vous voulez. Vous avez dit tout à l'heure qu'Eliot Gould arrivait dans son propre rôle. Il y a une question qui me paraît centrale chez Altman, c'est la question du réalisme. Parce qu'il y a 2 types de réalisme, en fait, en art. Enfin, il y en a sans doute 36, mais pour moi, si on veut simplifier, il y en a 2. Il y a le réalisme qui consiste à présenter une fiction comme si c'était du vrai. Bon, point final. Et il y a le réalisme qui consiste à casser la fiction. Bon, exemple, dans les films de Woody Allen, quand Woody Allen se tourne vers le public et ne parle qu'au public, il est bien évident qu'il n'est plus dans la narration du film. Mais cette brisure du réalisme provoque finalement un réalisme qui est peut-être beaucoup plus grand, puisqu'on a un contact direct avec le public, et puisque j'ai parlé de Woody Allen, on a peut-être un effet rose-pourpre du Caire. On ne sait plus si le spectacle est dans la salle ou sur l'écran, il est dans les 2 endroits en même temps. Et alors pourquoi dans Nashville ça colle bien? C'est parce que cette dualité, on la retrouve dans le fait qu'il aurait pu ne faire qu'un film de chansons. Or, s'entremêle la politique dans le film.
Oui, parce que c'est un peu une comme dans ces comédies musicales à la Minelli ou Stanley Donen, c'est l'histoire de on va créer un spectacle, sauf que le spectacle qu'on est en train de créer, c'est pas un spectacle de chansons, un spectacle de théâtre ou de comédie musicale, c'est un spectacle politique. Oui. Il s'agit de monter un meeting politique en chansons.
Mais on lui a reproché, d'après ce que j'ai lu, on lui a reproché de tuer à la fin, non pas un homme politique, ce qui aurait paru normal à tout le monde, n'est-ce pas, puisque un homme politique, il est normal de tuer un homme politique, mais quelqu'un du spectacle. Bon, alors, moyennant quoi, l'histoire lui a donné raison, si j'ose dire, puisqu'il y a eu l'assassinat de John Lennon, et puis il y a eu, aidez-moi, la tentative d'assassinat du fan de Jodie Foster, oui. Bon, autrement dit, Altman a été précurseur d'une certaine manière. Il a compris que politique et spectacle étaient 2 choses qui allaient de plus en plus s'entremêler.
Charlotte Garçon, concentré d'Amérique, effectivement, le cinéma de Robert Altman.
Oui, enfin, presque tous ses films. Et effectivement, c'est une revisitation. Alors, on parlait de MASH tout à l'heure. Ça se passe pendant la guerre de Corée, mais on entend évidemment la guerre du Vietnam contemporaine de son tournage. Et tout ressemble à des petits théâtres, puisqu'on expose aussi Hot Lips sous la douche en relevant une toile de tente. Enfin, vraiment, tout ressemble à chaque fois à des spectacles, à des scènes qu'on fait surgir comme ça. Et puis, bien sûr, revisitation aussi du mythe de la fermeture de la frontière de l'Ouest dans John McCabe. Et ce que je trouve intéressant, par exemple, dans John McCabe, qui, on pourrait dire, ressemble à un western, on pense à la chevauchée des bannis qui finit comme ça sous la neige, c'est qu'en fait, il montre un type qui croit qu'il apporte le capitalisme, qui se croit un capitaliste malin parce qu'il achète 3 pauvres filles édentées, qui va aller prostituer dans un campement très très, très reculé de l'Ouest, et finalement qui se fait doubler, puisque arrivent des promoteurs immobiliers qui ont les dents très longues et qui vont essayer de l'exterminer. Et donc, et ça dit quelque chose de l'Amérique où l'idéal de pouvoir faire sa petite affaire et d'être un self-made man qui réussit va être complètement ravagé par un capitalisme massif. Et ça, je trouve que ça, c'est à la fois l'histoire de l'Amérique et c'est à la fois ce qui se passe, ce qui va se passer dans les 10 ans à venir, à savoir le réganisme quand même violent.
Qu'est-ce qui reste de la frontière de l'Amérique et du western? Plus grand-chose.
You haven't seen Dirty Gertie yet. Pull her bow and she'll say hello. I'm gonna go put on some music.
Ah, she spit on me!
My new roommate, Pinky. This is Willie. We'll have a couple of beers. She and Edgar run this place. They live in that house out back. She's gonna have a baby. Don't pay any attention to her. She never says much. Wait till you meet Edgar. He's really funny. He used to be on the White Earp TV show. He knows Hugh O'Brien. This lady. I like your paintings. About your general lack of happiness, Mr. Bartell. Now, what'd you say that for? That's embarrassing. Set 'em up
again. On est dans un décor de western, un saloon, première réunion dans le même cadre des trois femmes du titre, Millie, Pinky et Willie, soit Shelley Duvall, la muse altmanienne par excellence. Sept films avec Altman de Brewster McLeod qu'il avait révélé jusqu'à Popeye. Elle aura le prix d'interprétation féminine à Cannes pour ce rôle. Sissy Spacek, qui sort tout droit à ce moment-là des Badlands de Terrence Malick et du Carrie de Brian De Palma. Et puis Janice Hurt, c'est un film... qui est né d'un rêve, Frédéric Albert Lévy, et Altman, souvent prolixe sur ses films, il ne voudra jamais trop parler de celui-ci.
Je voudrais quand même corriger une erreur dans ce que vous venez de dire.
Encore ?
Vous avez dit qu'il y avait trois femmes. Non, il y en a quatre. Puisqu'il y a Gertie la cochonne.
Le ricanement, ce n'est pas Altman qui ricane, c'est cette poupée mécanique.
C'est la poupée mécanique qui est d'une laideur sans nom. Mais qui pour moi est essentiel parce que vous venez de dire à l'instant effectivement qu'Altman a refusé, bon avec le temps il a quand même parlé un peu plus, mais il a très longtemps refusé d'expliquer quoi que ce soit dans le film, mais il a fini par dire que les trois femmes étaient en fait les trois visages d'une même femme à travers le temps. Mais moi il me semble que Gertie, quand on la voit de près avec le gros plan, c'est, si je puis me permettre, sans être misogyne, le quatrième âge de la femme, c'est-à-dire là encore... la mort. Et c'est pour ça, je crois, qu'il fait envoyer l'espèce de sauce ou je ne sais pas trop quoi sur Pinky, parce que Pinky est la plus jeune et elle pousse un cri de terreur. Pourquoi ? Parce que dès sa jeunesse apparaît l'image de la mort. Alors, au départ, je vous en ai voulu un peu pour le choix de cet extrait, même si il me paraît là justifié. Non, pourquoi ? Parce que dans ma modeste brochure, j'ai essayé d'expliquer ce qui rejoint votre question, à quel point ce film était poétique dans l'âme. Et je me dis, oh, la séquence, une des séquences les plus laides, parce que vous avez parlé de décor américain, mais enfin, saloon américain, c'est pas d'une beauté non pareille quand même. Et en fait... quand on réfléchit, même si c'est vraiment le degré zéro de la poésie, Dirty Gertie, cette assonance, c'est la base de la poésie, puisque quand on s'interroge sur l'origine de la poésie, certains vous disent qu'au début, la poésie, c'est un assemblage de mots qui ne veut rien dire, mais qui provoque tout simplement une espèce de joie dans l'oreille. 1, 2, 3, la baguette en bois. 4, 5, 6, t'as l'air d'une saucisse. Bon, c'est un exemple qui est donné dans des thèses sur la poésie. Donc, il y a ce jeu. Et alors, il y a le jeu sur les noms, bien sûr. Pinky Rose, Pinky qui veut dire rose, donc elle est deux fois rose. Millie et Willie, comme je le dis dans la brochure, le W n'est jamais qu'un M à l'envers, etc. Donc, cette scène, oui, elle est capitale. Pourquoi ? Parce que, en rapport avec le rêve, alors il y a une question qui se pose à la fin. Shelley Duvall demande à Cissy Spacek, mais pourquoi tu dis des choses comme ça ? Comme si elle veut dire une monstruosité. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit à Janice Roule, j'aime bien vos peintures. Bon, moi je veux bien qu'on me dise qu'on aime bien mes peintures. Et en fait, je crois qu'elle est scandalisée parce que, et ça rejoint encore une fois le thème de la mort, alors là c'est Altman qui le dit lui-même, pour qui sait regarder le film et le générique, tout est déjà dit dans les peintures de Janice Roule. Comment peux-tu dire des choses comme ça ? Signifie peut-être notre destin, c'est abominable, c'est pas ce qu'elle veut dire, mais ce qu'elle sent, notre destin est déjà écrit. Et alors, moi, je ne peux pas évoquer ça sans une véritable émotion, puisque lors de mes modestes recherches récemment, je suis tombé sur des vidéos de Shelley Duvall aujourd'hui, et Shelley Duvall aujourd'hui, dans la réalité, est dans un état mental bien pire que celui dans lequel elle... tiens, puisqu'on parlait tout à l'heure de la dureté de l'Amérique, c'est une SDF qui a honnêtement perdu la boule, et apparemment il n'y a pas vraiment d'aide sociale. Et j'étranglerais volontiers, bon, même si ça me permet de donner ce renseignement aujourd'hui, j'étranglerais volontiers le journaliste qui l'a interviewé pour un talk show. Et alors, cela dit, ce qui est encore plus dramatique, c'est qu'elle a une confusion mentale, mais, et ça nous ramène un peu à Nerval que j'ai cité dans la brochure à propos de trois femmes, elle est consciente d'avoir la confusion mentale en question. Et c'est pour ça, me semble-t-il, qu'il y a une poésie qui va bien au-delà de 1, 2, 3, la baguette en bois. C'est qu'il y a ce rêve, mais il y a cette lutte constante pour sortir du rêve, pour y retourner. Le jeu concentre la fiction et la réalité chez Altman. Une dernière question à propos de trois femmes. Est-ce que c'est un film misogyne ?
Ah ben je
m'arrêterai au point d'interrogation.
J'allais poser la question à Charlotte Garçon, parce qu'à l'époque, Agnès Varda se répand partout en disant que c'est un film atroce. Robert Altman s'en réjouit en disant que ça ferait un excellent slogan publicitaire. Agnès Varda n'a pas aimé le film, mais c'est vrai que c'est une question dans les malentendus ou les clichés qu'on peut avoir sur Altman, la question du Altman foncièrement misogyne, misanthrope, enfin n'aimant personne, mais en particulier pas les femmes. Alors ce film-ci, Charlotte Garçon.
Vous avez raison de souligner que les hommes ne sont pas mieux lotis dans Trois Femmes. Hein, parce que
on s'en débarrasse d'ailleurs. Hein. L'idée, c'est de reconstituer une cellule familiale où il n'y aurait que des femmes.
Oui, le personnage principal masculin est quand même une espèce de cow-boy qui a une doublure de cow-boy, enfin un cascadeur qui joue les doublures de cow-boy au cinéma. Est-ce que Altman est misogyne ? En tout cas, il est vrai que souvent, à la vision de ses films, on a, au moins en tant que femme, on peut dire, on a une forme de malaise. Mais vous avez raison que une forme de misanthropie ne peut aller avec une empathie aussi. Enfin, quelque chose de la masculinité est quand même toujours mise à mal dans ses films. Elle est montrée comme étant un état d'angoisse par rapport à la virilité. Donc voilà, misogyne ou pas. Ce qui me semble intéressant aussi dans Trois femmes, c'est que d'abord du point de vue narratif, on a l'impression de retourner à la source de ce qui fait le soi-disant film choral d'Altman, c'est-à-dire que on est presque à la parthénogénèse. Elles sont deux, et puis il y a toutes les questions de gémellité, de dédoublement, de reflets visuels, etc. Donc en fait elles sont trois, puis elles sont quatre, comme vous le disiez, puisqu'il y a une poupée, et on se dit, ben voilà, ça va continuer à faire des petits, et l'image de la femme est démultipliée. Donc c'est aussi un film qui est riche pour ça, on peut dire que c'est tous ces reflets de femmes. Et puis surtout, ce qui me semble intéressant, c'est que c'est un film décor, c'est-à-dire que vous parlez beaucoup des personnages avec raison, mais moi ce qui me frappe surtout dans ces films, et c'est l'aspect pictural de tableaux aussi, de tableaux auditifs et de tableaux visuels, c'est que moi, ce qui me reste, ce sont les décors. Et là, en l'occurrence, c'est cet ensemble, ce complexe d'appartements très typique de la Californie qui s'organise autour d'une piscine et qui est jumeau d'une autre piscine qu'on voit au début du film et qui est une piscine pour les vieux. Et on voit très bien que l'avenir de ces jeunes gens beaux, bronzés, qui ont une activité sexuelle, etc., ben ça va sans doute être de finir dans une piscine thérapeutique pour vieilles personnes.
I see your license registration. I do something wrong, officer?
Take your sunglasses off, ma'am.
You know, this clown is detachable. I have a permit for it. It's decode. I've been stopped before. There's never been a problem.
Phone number, ma'am?
504-0361.
I'll let you go with a warning this time, ma'am. You're driving too slow. Just as dangerous as driving too fast. Please refrain from doing so in the future.
Can I go now?
No, ma'am. One more question.
What's that?
How many clowns can you fit in this car?
I beg your pardon?
How many clowns can you fit in this car, ma'am?
Why'd you take my phone number?
Well, you never know when you might need the services of a clown, ma'am.
You have children?
No, ma'am. I can use some cheering up from time to time myself, ma'am. Being a cop isn't easy.
Scène de contrôle policier entre Tim Robbins en motard de la police de Los Angeles et Anne Archer costumée dans son costume professionnel de clown avec un clown sur sa voiture. On est dans Shortcuts, c'est le grand retour de Robert Altman, retour en grâce à Hollywood après le succès de The Player qui lui a permis de financer ce Shortcuts dont il avait le projet auparavant, Lion d'or à Venise, ce qui fait d'ailleurs de Robert Altman un des rares cinéastes à avoir accompli le grand chelem, Palme d'or avec MASH, Lion d'or avec Shortcuts et auparavant Ours d'or pour Buffalo Bill et les Indiens. On est dans le retour du film choral, ça sera d'ailleurs le cas de quasiment tous les derniers films d'Altman. On n'a pas encore parlé de sa méthode de travail avec les acteurs. On parle de films improvisés, plus ou moins improvisés, d'une trame. Altman disait des acteurs qu'ils en savaient plus que lui sur les personnages qu'ils interprétaient et que finalement c'était une façon pour lui de comprendre le scénario. D'utiliser les acteurs, Frédéric Albert.
Oui, il disait même que quand les acteurs venaient l'interroger sur la psychologie du personnage, il prenait la tangente et il répondait toujours systématiquement à côté. C'est-à-dire, il disait il faudrait peut-être que tes bottes soient un peu plus sales ou d'une autre couleur, etc. Ce qui était une manière de les laisser libres. Mais je me méfie de ce mythe. Moi, j'ai pas vu Altman diriger, enfin, je l'ai aperçu quand il dirigeait Beyond Therapy à Paris, mais vraiment trop brièvement pour que j'en parle. Mais en revanche, j'ai vu Chabrol diriger. Bon.
Et lui aussi disait, c'est le casting avant tout, c'est
oui,
ça qui compte.
Oui, oui, non, mais bien sûr, je l'ai même vu dire à. Alors, c'était pas des acteurs, c'était, je crois, des costumières qui venaient lui demander quelque chose, et je l'ai vu répondre, non pas méchamment, mais en souriant. Mais pourquoi me posez-vous la question puisque vous connaissez déjà la réponse? Bon, mais il faut quand même pas être naïf. Il y avait un degré de manipulation derrière qui dépassait, ne serait-ce que, nous sommes là pour parler d'Altman, mais je termine avec Chabrol. Bien nourrir ses acteurs, c'est pas simplement quelque chose en plus, c'est les mettre en conditions et les dialogues qu'il avait avec ses acteurs, alors ça j'ai vu à la cantine, c'était déjà une manière de répartir les jeux. Ce que je voudrais dire à propos de la séquence que vous venez de passer, très rapidement, c'est que, comme on sait, le début de carrière d'Altman a été à la télévision, entre autres dans Alfred Hitchcock présente. Et là, j'ai envie d'appeler cette séquence Alfred Hitchcock ne présente plus. Ne présente plus pourquoi ? Parce que la séquence, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais évoque irrésistiblement pour moi le début de Psychose. Bon, simplement, les rôles sont inversé parce que au début de Psychose, le flic représente quand même la justice et la femme dont j'ai oublié le nom, mais c'est la méchante qui vient de partir. Hitchcock, qui vient de partir avec l'argent.
Tout le monde oublie.
Partir avec l'argent est coupable, tandis qu'ici c'est tout à fait l'inverse, puisque le flic en question, il est adultère, il lui pique son numéro de téléphone, il y a abus de pouvoir. Et donc là, je pense que, on est dans Shortcuts, depuis longtemps, une partie de Hitchcock, d'Altman s'explique par « moi je vais vous faire du suspense comme Hitchcock, mais qui sera de l'anti-suspense. Parce qu'il a une manière que je trouve extrêmement vicieuse et très éprouvante pour moi à certains moments, d'introduire des suspens sur des trucs qui ne débouchent sur rien ou qui débouchent sur quelque chose, mais bien longtemps après. Dans Shortcuts, il y a... c'est dans The Company. Vous voyez un type préparer une omelette avec des poivrons. Bon, il a un couteau, mais enfin, d'accord, à la main, mais enfin, nous avons tous un couteau à la main. Eh ben, moi, je ne respire plus quand je vois ça. Et de fait, on le retrouve après avec un bandeau autour, mais on s'est trompé parce que il s'est pas coupé avec le couteau, il s'est ébouillanté en laissant tomber la main dans une bouillabaisse, mais ben pour un autre plat. Et dernière chose, quand vous parliez de Balzac dans votre introduction, à propos de Shortcuts, moi, je vois plutôt Flaubert. Je vois plutôt Flaubert, c'est-à-dire chaque séquence, chaque histoire est abominable. C'est d'une laideur sans nom, il n'y en a pas une pour racheter l'autre. En revanche, où est la beauté là-dedans? Je crois que c'est la recherche d'Altman. C'est que toutes les notes sont fausses, prises individuellement, mais avec, et on revient un peu à l'overlapping, mais là, dans la construction même du truc, toutes ces histoires finissent par avoir une unité dans leur noirceur. C'est ça qui me... Enfin, je retrouve l'éducation sentimentale de Flaubert dans Shortcuts d'Altman.
Et c'est sans doute effectivement dans la musique, Frédéric Albert Lévy, que tant d'individus solitaires ensemble, tant de notes séparées font sens et font de la belle musique. On se quitte d'ailleurs sur ce jig endiablé du Kansas City de Robert Altman. C'était en 1995 et c'était James Carter et Joshua Redman notamment qui nous faisaient profiter de leur solo. Trois femmes de Robert Altman est édité dans sa très belle version restaurée en DVD et Blu-ray par Wildside avec votre livret Je est une autre et de nombreuses photos du film et du tournage. That Cold Day in the Park est également édité chez Wildside, qui serait bien inspiré de faire le même travail sur Nashville ou, je ne sais pas, un mariage. On l'espère ardemment. Nashville, on peut cependant le trouver sur la cinémathèque en ligne des cinéastes, avec trois autres films d'Altman, Brewster McCloud, John McCabe et Les Flambeurs. Quant à vous, Frédéric Albert Lévy, on peut retrouver vos textes sur le site bootjam.fr. Vous écoutez France Culture et il y a un autre centenaire que nous célébrons cette année, celui de Maurice Pialat. Ce sera le 31 août prochain. On aura certainement l'occasion d'y revenir plus longuement, mais on vous en propose déjà un avant-goût avec quelques-unes de ces belles vacheries dont il avait le secret.
En plus, moi, j'ai plus un rond maintenant, avec tout le pognon que j'ai dépensé avec tes parents en Camargue.
Oh, t'exagères, hein? C'est toi qui les as invités. Ils sont restés que deux jours.
Et toi, qu'est-ce que tu vas faire?
Je sais pas.
Tu vas pas travailler dans les bureaux? Tu sais pas. Alors tu vas encore chercher du boulot dans les bureaux, mais depuis 6 ans, combien t'en as fait? Moi, je sais pas, à force d'aller t'attendre partout, j'ai fait tous les quartiers de Paris. Tu veux pas chercher quelque chose de plus intéressant, non? Non, t'es là, t'es molle, et puis t'attends. Tout ce que j'essaie de faire pour toi, c'est la même chose. J'ai essayé de te faire travailler dans le cinéma, ben ça marche pas. Chaque fois, y a rien à faire. Rien t'intéresse. Tout ce que t'es, c'est une feignante, c'est tout. Une bonne feignante, voilà. Tu laisses tomber tout de suite. Ah si, la seule chose qui te plaît, cover girl. Ah voilà. Madame veut être cover girl, avec le pif que t'as et tes taches de rousseur. Hein. T'es trop petite et t'es trop moche. Alors mets-toi une bonne fois dans la tête qu'il faut que tu trouves quelque chose d'intéressant, mais pas dans cette catégorie-là. T'as jamais rien réussi et tu réussiras jamais rien. C'est tout. Et tu sais pourquoi? Parce que t'es vulgaire. Irrémédiablement vulgaire. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Toute ta vie, tu resteras une fille de concierge. Tu peux me regarder comme ça? Ça ne change rien. Je pense que depuis que je te connais, j'ai rencontré des filles formidables, j'aurais mieux fait de rester avec elles. Je me demande vraiment pourquoi je suis avec toi. Je reste par pitié, voilà. Par pitié, je reste. Tu t'accroches à moi depuis 6 ans. T'as aucune volonté, t'as aucun courage. Ton seul orgueil, c'est ça, c'est ta médiocrité. Alors?
Il y a des scènes comme ça qui suffisent à faire la postérité d'un film. Jean-Yann agonisant Marlène Jobert dans une voiture et en un seul plan, c'est « Nous ne vieillirons pas ensemble » de Maurice Pialat en 1972. On revient sans cesse à Pialat, à plan large comme ailleurs. La dernière fois chez nous et à la veille de la ressortie en salle de l'ensemble de ses films restaurés, c'était en fin de saison 2020-2021 avec le critique Jérôme Momcilovic. Il mettait alors la dernière main à un livre sorti depuis sous le beau nom de Maurice Pialat, La main, les yeux. Pourquoi ce titre? Parce que les films de Pialat rappellent que le cinéma n'est qu'en second lieu le travail de l'œil. C'est d'abord un travail manuel, écrit Momcilovic, qui considère que Pialat, c'est Renoir sans la ruse ni la bonhomie, avec une main de peintre maniaque. En renoirienne que vous êtes, vous partagez l'analogie, Charlotte Garçon?
Alors, si Renoir il y a chez Maurice Pialat, c'est d'abord Pierre-Auguste, dont le fils mettait en contraste le métier avec le sien de cinéaste, en disant qu'un peintre, lui, peut aller très très profond en creusant le même petit trou. Or, Pialat, qui rappelons-le, a d'abord été peintre, et dont on voit la main peindre au générique de début de Van Gogh, son film de 1991, semble parvenir à creuser au cinéma le même petit trou. C'est le cas dans la scène que l'on vient d'entendre. On comprend tout de suite que c'est une douche continue d'insultes, mais il ne coupe pas une fois qu'on a compris. Et de plus, il maintient la caméra surtout sur le visage de Marlène Jobert. L'angle, disons, est plus favorable au visage de Marlène Jobert sur les variations quasi climatiques par lesquelles passe ce visage, à tel point que la violence de l'homme est quasiment oblitérée par le portrait de femme et d'actrice, et que c'est justement Jean-Yann qui va s'expulser, sortir du champ. Et Antoine, il y a effectivement du Renoir fils, Jean, chez Pialat aussi. Vous ne croyez peut-être pas si bien dire, puisque le film qui a le plus marqué Pialat dans son enfance, c'est La Bête humaine, avec la Louison, son énorme locomotive qui fonce de Paris au Havre, et qui, quand on y pense, contient en quelque sorte le cinéma à son état natif, l'entrée en gare d'un train à La Ciotat des Frères Lumière, mais qui aurait été refilmé au prisme de la violence pulsionnelle faite machine et qui donc met l'innocence des premiers temps du 7e art sur des rails dangereux. Alors, ce brillant essai presque minéral de Jérôme Momcilovic qui pose des petits cailloux d'analyse et qui tend des fils entre la main et les yeux, ces deux parties, est traversé bien sûr par la violence que l'on entend par exemple dans l'extrait que nous avons passé. Et le livre rappelle en ouverture que, je le cite, « La main de Maurice Pialat est mieux connue comme poing ». Le 20 mai 1987, sur la scène du Festival de Cannes, Sous le soleil de Satan reçoit la Palme d'Or ainsi qu'une volée de sifflets et Pialat tend le poing. Mais plutôt que de revenir de manière obsessive à cette dureté qui se décline chez ses personnages, comme dans certaines de ses apparitions médiatiques ou sur ses tournages, l'auteur nous propose de déceler dans les films de Pialat un point de vue, une formation du regard. Et ce regard, c'est celui de ce qu'il appelle l'abandonné et qui recouvre presque entièrement la figure de l'enfant. C'est assez remarquable. Son premier long métrage, L'enfance nue, a pour personnage principal un garçon placé par la DAS, et son tout tout dernier film, Le Garçu, est entièrement construit autour d'Antoine Piala à l'âge de 4 ans, le fils que le cinéaste a eu très tardivement à 65 ans. Que ce soit les enfants de la merveilleuse série La Maison des Bois, réalisée pour l'ORTF en 1971, les lycéens de Passe-ton-bac d'abord, ou la naissance d'une actrice, Sandrine Bonner, dans ce qui est à mon sens son chef-d'œuvre À nos amours, Piala filme non seulement des jeunes gens, mais des personnages à qui une forme de prise sur l'autre, sur le monde, sur le réel, sur la vie, semble déjà compromise, déjà perdue, et qui, de ce fait, sont proches d'autres parias, les vieux et les morts. D'où cette phrase quasi proustienne sous la plume de Momcilovic à propos de l'enfance nue qui se passe donc chez un couple d'accueil âgé. Pépère et Mémère, je le cite, « grandir chez eux qui ont presque fini leur vie, grandir dans leurs odeurs d'encaustique et de vieille laine, cernés par les photos qu'ils entassent sur les buffets, obligés de se fondre dans leurs habitudes devenues autant de manies, à l'égard du présent qui n'est plus leur affaire et qu'on n'aperçoit que le dimanche, quand les parents viennent en visite, comme rentrer chaque fois d'un grand voyage où il n'y a pas de place pour vous, c'est grandir dans une banlieue de la vie et apprendre à la regarder de loin, comme une image. » En d'autres termes, la mélancolie permet de faire l'image, hein, comme dirait Samuel Beckett. Et si ce glissement de la main aux yeux est une sorte quand même de malédiction ou d'inertie fatale, alors le peintre ou le cinéaste, c'est celui qui, contraint de s'en tenir à regarder, insiste pour regarder jusqu'au bout, y compris la mort, hein, c'est La Gueule Ouverte, le film sur l'agonie d'une mère, voir au-delà de la mort le fantôme. Et Momcilovic analyse tout un aspect méconnu, quasi spirit, voyant, hein, qui va de ses projets de jeunesse, de science-fiction et de ses premiers courts-métrages surréalistes, au personnage de prêtre visionnaire de Sous le soleil de Satan, interprété, geste de casting quand même génial, par Gérard Depardieu. Hein, on est un film tiré de Bernanos, et Depardieu, c'est d'abord Le Loubard de Loulou, le film de 1980. On voit là que le cinéma de Maurice Piala ne peut être réduit au naturalisme, ce serpent de mer critique qui revient toujours à propos du cinéma français. Il ne s'agit aucunement pour lui de rechercher le naturel dans le jeu d'acteur ou d'injecter une vague teneur documentaire dans ses fictions. Et le livre propose une définition du coup du naturalisme beaucoup plus chirurgicale et glaçante qui a à voir avec, si vous me permettez cet oxymore, la chair des fantômes. Momcilovic rappelle en effet qu'un naturaliste, c'est aussi le mot qu'on emploie pour désigner un taxidermiste.
Charlotte Garçon se quitte avec Klaus Nomi, The Cold Song, qui hantait la bande-son d'À nos amours de Maurice Piala. Maurice Piala, La main, les yeux de Jérôme Momcilovic est édité chez Capricci. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Florian Bujon, Audrey Guélil, Ludovic Auger et Mineta Diawara. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Massimo Bellini et Anne-Laure Chanel.